La Sainte Bible palmarienne. La Bible des derniers temps, entièrement révisée, exempte d'erreurs, infaillible. Le 22 décembre 1975, jour de la fondation de l'Ordre des Carmes de la Sainte Face par notre Seigneur Jésus-Christ, il a donné un message important et a dit entre autres, « Mes très chers petits-enfants, aujourd'hui commence pour vous cet ordre qui se prépare à la seconde venue de celui qui vous parle, Jésus-Christ. » Et le 8 octobre 1976, le Seigneur a dit, « Allez au Palmar de Troya. » Le lieu choisi par le Très-Haut pour préparer le monde, au moyen de la prière et la pénitence, à la seconde venue du Christ qui est toute proche. Au Palmar de Troya, vous trouverez la lumière pour voir que nous sommes dans les derniers temps, que dans le prochain pontificat il y aura un antipape à Rome et que très bientôt l'antéchrist personne, qui, aidé par le communisme et par des évêques et des prêtres apostats, se lancera dans une terrible bataille contre les vrais fils de l'Église et que très peu persévéreront dans la foi authentique. Le 6 août 1978, à la mort du pape Saint Paul VI, l'évêque Père Fernando, au siècle Clément Dominguez et Gomez, dans la ville de Santa Fe de Bogota, capitale de la Colombie, a été élu, oint et couronné pape directement par notre Seigneur Jésus-Christ. Trois jours plus tard, le nouveau pape, désormais Grégoire XVII, de Gloria Olivae, a déplacé le siège de l'église de Rome au Palmar de Troya Séville, en Espagne. C'est ainsi qu'a commencé l'histoire de la papauté au Palmar de Troya, avec pour mission de restaurer et de maintenir l'intégrité doctrinale et disciplinaire dans l'Église du Christ, par des réformes profondes et des enseignements magistraux. À cette fin, le pape Saint Grégoire XVII le Très Grand, a convoqué le Saint, Grand et Dogmatique Premier Concile Palmarien et le Saint, Grand et Dogmatique Deuxième Concile Palmarien, dont 50e assemblée ont eu lieu avec l'intervention comme principal collaborateur du très révérend Père Isidore Marie, secrétaire d'État. L'œuvre de la Grande Réforme a eu son point culminant avec la confection et la publication de la Sainte Bible palmarienne. Cette sainte personne papale était la seconde pierre ou rocher de l'Église, choisie et placée directement par notre Seigneur Jésus-Christ. Ce glorieux pape a exercé tout son pontificat privé de la vue corporelle, ayant perdu ses deux yeux dans un accident de voiture. Ce bienheureux vicaire du Christ brandissait l'épée flamboyante d'Élie éliminant, dans la vraie Église du Christ, toute erreur ou corruption venant de l'extérieur ou provenant de l'intérieur. Ce saint souverain pontife, en tant que bon pasteur et gardien zélé de la maison du Seigneur, veillait sur la porte du bercail confiée à lui par le Christ, empêchant les loups féroces de pénétrer pour disperser et dévorer le troupeau. Le pape Saint Grégoire XVII était le grand messager apocalyptique. Grâce à ses messages, le monde a fini par découvrir la vérité sur ces derniers temps ou l'ère apocalyptique. Il avait assez de courage et d'audace pour mettre en évidence les grands événements. Grâce à sa fidélité au message reçu de Dieu, l'humanité a connaissance du contenu du message secret de Fatima. Nous rappelons que le message secret de Fatima est fondamentalement le suivant, le communisme et la franc-maçonnerie escaladeront le sommet et les autres hauts postes du Vatican, grâce à l'établissement à Rome de l'antipapauté après la mort du pape Saint Paul VI. Les premiers signes caractéristiques de la période historique dite apocalyptique se sont développés en 1917 par la confluence de quatre événements décisifs. La guerre européenne devient guerre mondiale, la révolution bolchévique de 1917 en Russie laisse place au triomphe du communisme, considéré comme l'antéchrist idéologique, et dans cette même année a été reconnu le droit du peuple juif à former une nation indépendante dans la région de Palestine, et encore en 1917 l'apparition de la très sainte Vierge Marie à Fatima, qui, avec des messages apocalyptiques et de grands signes dans le ciel, a promis le triomphe de son cœur immaculé. Ce saint pape et grand caudillo del Tajo, avec beaucoup de courage, a anathématisé l'antipape de Rome Jean-Paul Ier, le maçon, et l'antipape de Rome Jean-Paul II, le maçon. Et avec les canons de sa doctrine infaillible et de sa discipline inflexible, a proclamé la grande croisade de l'Apocalypse par un édit doctrinal et disciplinaire, mais belliqueux, en défense des droits de Dieu et de l'Église, contestant ouvertement toutes les hérésies et autres corruptions. C'est avec lui qu'a commencé le caudillage del Tajo, et donc le caudillisme carmélitain ou des crucifères des derniers temps. Ce saint pasteur universel, a enseigné magistralement, la Bible à l'autorité sous l'interprétation infaillible du magistère de l'Église. Pourquoi la Sainte Bible palmarienne? Il est impératif que, lorsque le Seigneur viendra dans sa seconde venue glorieuse, l'Église soit bien préparée pour lui, avec sa doctrine parfaitement ordonnée, sa discipline rétablie, ses cérémonies et rites dignes, harmonieux et conformes à la doctrine, et surtout une Bible entièrement révisée et totalement exempte d'erreurs et de falsifications. La Bible catholique, la Bible traduite par Saint Jérôme des langues originales, a été révisée plusieurs fois. Dans le passé, il était interdit aux fidèles de lire certaines parties considérées comme incorrectes. Mais maintenant que nous sommes dans les derniers temps, la Bible avait besoin d'une révision ultime et définitive, afin qu'elle soit prête pour la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ, quand tout lui sera donné. Cette tâche a été accomplie lors du second Saint Concile palmarien. La Sainte Bible palmarienne est le chef-d'œuvre des deux conciles palmariens, 1980-1992. 1995-2002, au cours desquels s'est malheureusement révélée de plus en plus l'existence de manipulations dans le texte sacré de la Bible. C'est pourquoi, bien que tremblant devant l'ampleur du travail, le pape Saint Grégoire XVII a ordonné la rédaction d'une histoire sacrée palmarienne, qui devait inclure tous les livres sacrés et éliminer les manipulations, ce qui a été réalisé lors du Deuxième Concile, une fois terminé le traité de la Très Sainte Trinité et la morale palmarienne, et naturellement grâce au charisme papal du vicaire du Christ, infaillible interprète des textes bibliques. Le pape Saint Grégoire XVII, le premier pape palmarien, est par antonomase le pape de la Sainte Bible, car, dans son immense travail doctrinal, il a été le premier pape à réaliser l'interprétation infaillible de la Bible officielle de Saint Jérôme, appelée Vulgate, ainsi que des autres versions bibliques, dans lesquelles la parole de Dieu est mêlée à beaucoup d'erreurs et de nombreuses manipulations des hommes. La publication de l'histoire sacrée ou Sainte Bible palmarienne est un triomphe retentissant du pape Saint Grégoire XVII contre les ruses de Satan et de ses sbires infernaux et terrestres, car dans la Sainte Bible palmarienne se trouve la parole de Dieu dans son absolue authenticité et pureté. Et donc désormais libérée des erreurs et manipulations qui la contaminaient et l'obscurcissaient profondément. Dès la deuxième année du premier Saint Concile palmarien, ce grand travail biblique a été inspiré par une vision qu'a eue le pape Grégoire XVII le 21 mai 1981 à la Maison Généraliste de Séville, qu'il relate « Je vois un grand livre et le Saint-Esprit, un calame au bec, qui trace des écritures, et ce livre apparaît entièrement plein de lumière. Un livre sacré primitif y apparaît, et le Saint-Esprit écrit directement par l'intermédiaire de ses prophètes. Plus bas, Saint Jérôme apparaît avec sa trompette. Il prend la trompette et la pose. Il écrit et prend la trompette. Et le livre apparaît avec pas mal de lumière et d'obscurité, clarification, Saint Jérôme a traduit la Bible hébraïque de son temps en latin, ouvrage appelé la Vulgate, la Bible officielle de l'Église jusqu'à la palmarienne. Avec la Bible grecque appelée la Septante, la même chose se produit avec la trompette. Et le livre apparaît avec des lumières et des obscurités. La Bible massorétique, clarification. C'est la Bible de la secte judaïque, à savoir l'Ancien Testament, est écrite par plusieurs personnes, et il en va de même avec la trompette, et le livre apparaît avec des lumières et beaucoup d'obscurité, et puis sur le texte hébreu, on voit quelques gestes des Juifs effectuant des changements capricieux. Puis, sous le menton de la très sainte Vierge Marie, apparaissent les mots suivants, permission et mystère. Ensuite, on voit un livre dans lequel apparaissent tous les mystères, un seul livre a été écrit dans un élan d'inspiration pure et ce livre n'existe plus. Maintenant, la colombe, calame au bec, apparaît pour écrire pendant le Concile palmarien. Le livre du Concile palmarien apparaît du début à la fin, c'est-à-dire tout le travail que ce concile a accompli et accomplira, et qui, dans son ensemble, sera l'œuvre du Saint-Esprit. Au cours des travaux conciliaires, on trouvait plusieurs séries de manipulations dans le texte sacré, par exemple, une série dans les livres de Moïse, à cause des prêtres lévitiques, afin d'abaisser le grand caudillo et exalter son frère Aaron, le premier grand prêtre lévitique. Une autre série se caractérisait par une tendance à discréditer les convertis, allant jusqu'à censurer des épisodes entiers. Le roi Salomon était responsable d'une autre série de manipulations pour abaisser son père, le saint roi David, et ainsi dissimuler ses propres iniquités et mauvais gouvernements. Une autre série a été due au roi Manassé de Juda et de Samarie unis, pour dissimuler les conséquences désastreuses de son règne idolâtre, et faire croire qu'aucun de ses prédécesseurs n'avait été bon, qu'il s'agisse des rois du royaume de Juda ou de ceux du royaume de Samarie. C'est pourquoi les rois de Samarie, dans le texte manipulé, apparaissent tous comme mauvais, alors qu'en réalité il y avait quatre rois saints parmi eux, à savoir, Jéhu, Joacha, Jéroboam II et Phaséa. D'autres livres entiers, par exemple les livres des Maccabées, avaient été atrocement manipulés, et nécessitaient un véritable travail de restauration. Dans les lettres des apôtres avaient été supprimées presque toutes les références au sacrement, ainsi qu'à la très sainte Vierge Marie, et elles nécessitaient également un travail de restauration. Et le livre de l'Apocalypse nécessitait également une restauration considérable pour en faire ce qu'il est aujourd'hui, un guide merveilleux et facile à lire pour comprendre les temps dans lesquels nous vivons et ceux qui sont à venir jusqu'au jugement dernier, et après. Voici quelques exemples des nombreuses manipulations dans la Bible, dans les livres de Moïse, le texte manipulé affirme qu'il n'y a pas eu de circoncision pendant les 40 années du désert. Comme si Moïse n'avait pas veillé de près au respect de cette loi. Et il parle aussi d'une circoncision générale de tous les Israélites à Galgala avant la conquête de la Terre Sainte. Le texte vrai indique que cette circoncision générale concernait tous les convertis par l'apostolat qu'avait exercé le très saint Melchisédek sur la terre de Canaan avant la conquête, comme le rapporte le livre de la Sagesse, et que ces convertis sont ainsi entrés avec plein droit dans le peuple juif, puis ont été intégrés aux différentes tribus. Dans l'épisode des eaux de contradiction, on disait que Moïse avait douté s'il pouvait faire jaillir de l'eau du rocher en le frappant avec sa verge miraculeuse, et pour cette raison il disait que Dieu l'avait puni en lui interdisant d'entrer dans la terre promise. Comment Moïse aurait-il pu douter qu'il puisse, par l'ordre de Dieu, faire jaillir de l'eau du rocher, alors qu'il l'avait déjà fait des années auparavant après avoir traversé la mer Rouge? L'infaillible Sainte Bible palmarienne dit que ce qui s'est réellement passé, c'est que le peuple rebelle voulait qu'Aaron, frère de Moïse et premier grand prêtre lévitique, soit celui qui frapperait la roche avec sa propre verge. Aaron a fait ainsi, mais lorsque le miracle de faire sortir de l'eau n'a pas eu lieu, il a pris la verge de Moïse et a frappé de nouveau le rocher, avec le même résultat. Puis Moïse a frappé le rocher avec sa verge, et l'eau a jailli. La conséquence a été qu'Aaron s'est vu interdire l'accès à la terre promise. Il est mort avant de pouvoir y parvenir, comme le rapportent les textes. Contrairement à lui, Moïse est parti conquérir toute la terre promise à l'est du Jourdain, qui est devenu le territoire des tribus de Ruben et de Gad, comme le relate également la Vulgate. D'autres exemples de manipulation démontrent un mépris envers les convertis. Le texte manipulé place Marie, la sœur de Moïse, au-dessus de Séphora, fille de Jéthro, l'ancien de Madian. Séphora, en tant qu'épouse de Moïse, était donc considérée comme la première femme d'Israël. C'est d'ailleurs elle, et non Marie, qui a éclaté en cantique de louange à Dieu pour la traversée victorieuse de la mer Rouge. Une autre falsification a été de faire taire le sort de Dina, la sœur de Joseph d'Égypte. Comme nous le savons, Dina avait été violée par le païen Sichem, qui à son tour a été cruellement tué par Siméon et Lévi, les frères de Dina. Mais Dina avait conçu sa fille Asénète dans sa relation avec Sichem, et pour sauver Asénète des griffes criminelles de Siméon et Lévi, le père de Dina, le patriarche Jacob, a ordonné à Dina de sortir de la maison avec sa fille. Et des années plus tard, Dina est entrée au service de Poutiphar, homme de confiance du Pharaon, qui a pris une grande affection pour elle au point qu'il a adopté Asénète comme sa fille. C'est pourquoi dans l'ancienne Bible il était dit que Joseph d'Égypte avait épousé la fille de Poutiphar, sans dire qu'elle avait été fille adoptive, Asénète, la nièce de Joseph. Et elle était la mère d'Éphraïm et de Manassé, chef de deux des tribus d'Israël. Exemple des manipulations de la part du roi Salomon, il inventait des épisodes qui dépeignaient son père, le roi David, comme un terroriste, un homme cruel et un manipulateur, durant les années où il avait été banni de la cour du roi Saül. La Bible ancienne dit deux fois que le roi Saint David a cherché refuge auprès des rois philistins, ennemis de son propre peuple, ce que Saint David, loyal et droit, n'aurait jamais fait, et de plus, il aurait été tué sur place par les philistins, ses ennemis. Et il dit aussi qu'il sortait avec ses hommes pendant ce temps et massacrait des villages entiers des philistins de manière terroriste. Une manipulation flagrante du roi Salomon était sur l'enfant de David, issu de son adultère avec Bestabée. Le saint prophète Nathan, ayant réprimandé David, a prophétisé que l'enfant mourrait, comme châtiment pour David à cause de son adultère et de son crime. Mais David s'est livré à une prière et une pénitence intense pour préserver la santé de l'enfant. Le texte manipulé dit que l'enfant est mort, et alors, étonnement, David s'est paré de ses plus beaux atouts. Mais en réalité, l'enfant n'était pas mort, il a été guéri miraculeusement. Cet enfant s'appelait précisément Salomon, qui tenait à cacher qu'il était né d'un adultère. Une autre a été de faire taire la conversion du roi Assuérus, surnommé Cyrus, qui a décrété le retour en territoire d'Israël des Israélites de la captivité. Et c'est précisément ce roi Assuérus Cyrus, déjà juif de fait, qui a épousé la femme forte Esther, dont le livre avait été si manipulé qu'on ne savait pas de quelle époque il s'agissait. Une constante dans le travail conciliaire de Saint Grégoire XVII était son désir d'indiquer clairement que la feinte va à l'encontre de la loi de Dieu. C'est pourquoi les épisodes bibliques qui remettaient en cause cette loi divine étaient considérés comme le fruit d'une manipulation du texte sacré. Un exemple, le saint juge Ao, second des juges, n'a pas tué le roi païen Églon d'une manière terroriste lors d'une fausse visite diplomatique comme le dit le texte manipulé, mais en combattant lui et son armée en pleine bataille. La plus grande perle de cette œuvre est, bien sûr, l'évangile palmarien, un recueil des quatre évangiles de saint Matthieu, saint Marc, saint Luc et saint Jean. On y résout tous les nombreux problèmes que les commentateurs avaient autrefois. On expose la chronologie de la vie de notre Seigneur selon les données de Saint Luc et on rejette les données erronées de l'historien Joseph, dont l'œuvre complète est écartée en raison de ses nombreuses divergences avec la doctrine conciliaire. Dans cette perspective, et il est établi que Jésus-Christ est né le 25 décembre de l'an 5199 de la Création, soit 7 jours avant sa circoncision le 1er janvier de l'an 1 de l'ère chrétienne. Une avancée très importante pour pouvoir mieux comprendre l'Évangile et la fondation par le Christ des premières communautés chrétiennes, à la suite de l'ordre du Mont Carmel fondé par Saint Élie. La branche masculine comprenait les apôtres et les disciples, tandis que les pieuses femmes qui accompagnaient la Vierge Marie appartenaient à la branche féminine. C'est pourquoi, dans ces principes, le sacerdoce chrétien était nécessairement lié à la vie religieuse, comme il l'est de nouveau aujourd'hui. Les 17 premiers papes étaient tous supérieurs généraux de l'ordre carmélite. Il y a plusieurs épisodes que racontent les mêmes évangélistes avec des textes qui semblent diverger entre eux, dont l'explication se trouve dans le fait que l'épisode s'est produit plus d'une fois, par exemple, il y avait trois confessions de Saint-Pierre en juillet 33. Il y avait trois annonces par Jésus des négations de Pierre, et il y avait trois annonces de la trahison de Judas Iscariote, etc. Très remarquablement, c'est le commentaire qui accompagne le sermon de la dernière scène, qui donne à entendre l'ambiance psychologique et les motifs des différentes interventions des apôtres. Et plus remarquable encore est le commentaire qui accompagne la passion du Seigneur et les vraiment émouvantes épousailles du Christ avec la croix de notre rédemption. Et que dire de l'autre grande perle, qui est le livre des Actes des apôtres ? Ici, le Saint-Esprit a voulu clarifier de nombreuses facettes de l'organisation de l'Église à ses débuts pour contrer une multitude d'erreurs à ce sujet, ainsi que tous les aspects de la vie de Saint Paul. Qu'a-t-il reçu sur le chemin de Damas ? Par qui et quand a-t-il été nommé apôtre ? Quelles ont été ses relations avec le premier pape ? C'est sans doute ce qui a été écrit de plus remarquable sur saint Paul, à qui nous devons tant pour son admirable dévouement à l'évangélisation des nations. Alors, quand est-ce que les manipulations ont été introduites dans la Bible? Il n'y a rien de défini dans cette question, mais très probablement pendant le règne de l'empereur Dioclétien, qui, en l'an 303, a donné des ordres pour dépouiller les chrétiens de leurs églises, de leurs livres sacrés et de leurs postes et leurs titres. Le pape saint Marcellus Ier, régnant de 304 à 309, était l'épée flamboyante contre les chrétiens qui, par peur du martyre, remettaient les saintes écritures aux autorités païennes. Les principaux ennemis de la Sainte Église sont les juifs apostats, connus pour être actifs dans le domaine de la falsification et de la manipulation des documents. Quelque chose de similaire a été fait avec les écrits de saint Jean Bosco, dont les visions et les rêves mystiques ont été consignés dans l'un des volumes de sa biographie officielle conservée dans le réseau mondial des écoles salésiennes. Vers l'année 1966, deux salésiens ont été envoyés pour parcourir toutes les écoles et substituer ce volume par un autre qui avait été falsifié, car il y avait auparavant des révélations selon lesquelles en 1965 l'ordre salésien serait corrompu, ce qui s'est passé lors du chapitre général des salésiens convoqué à Rome cette année-là, quand le progressisme leur a été imposé. Logiquement, les interventions du pape saint Grégoire XVII dans ce travail biblique ont été très nombreuses. En plus de ses presque 900 définitions dogmatiques et formelles, dont beaucoup sont liées à des thèmes bibliques, il a résolu une multitude de problèmes avec ses lettres, que ce soit des questions chronologiques, généalogiques, historiques, des clarifications sur les textes, etc. et dans les sessions conciliaires générales, où il était toujours présent, il résolvait directement les problèmes qui survenaient. Par ailleurs, il y a eu quelques interventions mystiques, de temps à autre, afin de trancher différentes questions, par exemple, une très belle vision de la très sainte Vierge Marie comme la reine Essène, assise sur un trône au-dessus du lac d'Essène, aujourd'hui mère morte, vénérée par une foule d'anges qui chantaient son nom, dont le sens est saint, pour confirmer la manifestation de l'âme de Marie comme consort du très saint Melchisédek au temps d'Abraham. Le dimanche 21 janvier 2001, dans la basilique cathédrale de Notre-Mère du Palmar couronnée, vers 19h10, le pape saint Grégoire XVII, à la fin du premier tour de Sainte-Messe, alors qu'il était encore agenouillé dans le presbytère du maître-autel, a eu une vision extraordinaire et a reçu un message transcendantal sur la Bible palmarienne, « Ô mon très cher vicaire, Grégoire XVII de Gloria Olivae, le pape qui va bientôt remettre à toute l'église palmarienne une sainte Bible palmarienne, dans laquelle rayonne la lumière, d'où émane la lumière pour toute l'église et pour le monde. » L'heure du pape est venue de découvrir les manipulations du passé dans les saintes écritures. L'heure est venue, l'heure a sonné. Ô mon très cher vicaire sur la terre, sois courageux jusqu'au bout. Cette sainte Bible palmarienne sera la lumière pour de grandes conversions. Continue, je serai avec toi jusqu'à la fin. Ne te laisse pas vaincre par les ennemis. Avance, je te soutiendrai. Regarde, mon bien-aimé vicaire, contemple les légions d'anges qui sont ici maintenant, contemple leurs épées affûtées. Ces anges sont envoyés par moi à ton service. Ils te garderont comme ils l'ont fait jusqu'à présent. Continue, pour que l'Église bénisse le pape qui remettra une Bible propre de manipulation. Mon Église, mon épouse bien-aimée, l'Église palmarienne, tu seras bien plus connue lorsque la Sainte Bible palmarienne circulera à travers le monde. Et ce pape sera mieux connu lorsque la Sainte Bible palmarienne circulera à travers le monde. Car circulant d'abord au sein de l'Église, elle doit ensuite circuler dans le monde, afin de devenir la lumière qui convertit les nations. Une Bible dans laquelle on apprend à aimer Dieu, une Bible dans laquelle on apprend à ne pas mentir, une Bible dans laquelle on apprend à ne pas faire semblant, une Bible dans laquelle on apprend à ne pas croire les supercheries que racontent les historiens du monde. Voici le pape saint Grégoire XVII, dans son sermon prononcé le 9 août 2003, dans la basilique cathédrale de Notre-Mère du Palmar couronnée, parlant du travail conciliaire sur la Bible. L'œuvre majeure du second saint concile palmarien, comme nous vous l'avons déjà dit, est l'histoire sacrée ou la sainte Bible palmarienne, libre de toute manipulation. Comment est-ce qu'il est possible de pouvoir lire dans la Bible manipulée des expressions, que nous avons si souvent répétées, sur la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ ? Se référant à la Vierge Marie, il disait dans la Bible manipulée, au sujet de Saint Joseph, « Et il ne l'a pas connue jusqu'à ce qu'elle ait eu son premier fils, Jésus. » Cette expression veut dire qu'après il l'a connue, ils ont eu plus d'enfants, parce qu'ensuite apparaissent même des frères et tout, dans la façon dont tout cela est manipulé. Ce sont des paroles contre la vérité, contre ce qui a été défini pendant des siècles et des siècles par l'Église, que la Vierge Marie est restée vierge pendant l'accouchement, avant l'accouchement et après l'accouchement, c'est-à-dire vierge perpétuelle. Et bien d'autres exemples, comme par exemple en allant dans l'Ancien Testament, nous allons au passage du livre de Judith, où Dieu est décrit comme auteur d'un terrible péché de luxure et d'ivresse. Comment concevoir que la volonté de Dieu soit que Judith se pare de ses plus beaux atouts, et apporte sa cruche, bouteille, ou n'importe quoi, de vin, pour saouler Holoferne, et une fois celui-ci ivre, elle en profite pour lui couper la tête? Jamais Dieu ne commande de faire un péché, même pas pour justifier le but recherché, la libération de la ville. La fin ne justifie pas les moyens. Dieu ne peut en aucun cas être l'auteur du péché. Il n'est pas Satan. Il en est l'antithèse absolue, il n'a rien à voir avec Satan. Ainsi, dans ce passage de la Bible falsifiée, Judith est dépeinte comme vêtue de toute sa parure et parfumée afin de tenter Holoferne, de l'inciter à pécher. Et pour le persuader mieux, elle devait en outre lui apporter du vin pour le rendre saoul, puis lui couper la tête et l'envoyer en enfer. Alors, qui l'a envoyé en enfer alors qu'il était encore en vie? Ce serait Dieu alors. Dieu ne fait jamais une telle chose. Dans la Bible palmarienne, il est maintenant clair ce qui s'est passé. Lisez le livre de Judith dans la Sainte Bible palmarienne et vous verrez la grandeur de Dieu. Et il y a tellement de choses, parce que parler de toutes les falsifications qui existaient dans la Bible officielle serait sans fin. Par conséquent, il n'y a aucun doute que Satan, depuis le début de la Sainte Bible palmarienne, a redoublé sa bataille sans répit contre nous, car les voiles allaient être levées sur l'ancienne Bible, la vérité allait être découverte. Satan, qui en sait plus par expérience que par diable, prévoit que, lorsque Grégoire XVII aborde une question de théologie, il le fait de tout cœur et finit par éliminer le mal et remettre les choses en ordre. Dieu, auteur de la Sainte Bible palmarienne, se servait des instruments, des pauvres pécheurs comme nous, le groupe des vénérables pères qui composait le deuxième Saint Concile palmarien, mais lui, Dieu, est indiscutablement l'auteur. Par conséquent, Dieu ne peut pas se contredire, comme cela a été raconté dans la Bible falsifiée. Dans la Bible officielle, il semblait que parfois Dieu ne savait même pas où il se trouvait, de la façon dont était écrite cette Bible manipulée avec des expressions hors de tout sens, et Dieu semblait être un râleur. Il ressemblait à un vieux fou, agissant souvent dans l'Ancien Testament de la Bible falsifiée, comme un vieillard capricieux et grincheux. C'est ainsi que le Père éternel a été dépeint, comme un vieux ronchon, ce qui explique pourquoi il avait peu d'amis dans le monde. Il ressemblait à un vieux grognon. Dans la Sainte Bible palmarienne, on peut clairement voir que le Père éternel est un ancien plein d'amour. Il est naturel de penser à lui comme à un ancien en raison de la question de l'éternité, car le Verbe divin est de toute éternité, de même que le Saint-Esprit, puisque les trois personnes divines sont éternelles, bien qu'une distinction soit faite entre elles. On voit ainsi plus clairement la paternité du Père éternel, en tant que vénérable ancien qui, quand il doit châtier, châtie, et quand il doit récompenser, récompense. Il n'est en rien un vieillard grognon ou un rouspéteur acariâtre. Laissons donc le lecteur étudier cette Bible avec vénération, en remerciant Dieu Tout-Puissant d'avoir rendu possible sa restauration en ces temps de grande apostasie et de lutte acharnée contre Dieu lui-même. C'est une Bible embellie, accessible, facile à lire, révélant des enseignements moraux essentiels qui n'apparaissaient pas auparavant, ainsi qu'une grande lumière sur les temps apocalyptiques. C'est la Bible des derniers temps, purifiée, renouvelée, préparée pour le retour du Christ dans sa majesté et sa gloire.